Alors, on va commencer notre 17e leçon dans notre série sur la souveraineté de Dieu. On va regarder aujourd'hui la persévérance des saints. Donc, on avait examiné un petit peu la semaine dernière la préservation des élus. La préservation des élus, c'est ce qu'on pourrait dire la part de Dieu dans le salut. Dieu, de toute éternité, choisit son peuple et les place en Jésus-Christ dans le temps, dans l'espace. Les personnes reçoivent le message de la bonne nouvelle. Et Dieu nous prend d'un point et nous amène à l'autre. C'est la part de Dieu, c'est la préservation. On a vu plusieurs versets qui nous démontrent ça de façon très claire, que Dieu nous prend d'un point et nous amène à l'autre. Bien entendu, la condition primordiale, c'est que tu aies été vraiment placé en Jésus-Christ et que tu aies reçu la véritable foi en Jésus-Christ. Sinon, ça se pourrait qu'il y en a qui apostasient, mais ceux qui apostasient normalement, ce n'est pas des personnes qui ont reçu la véritable grâce de Dieu, parce que Dieu nous dit qu'il nous prend d'un point à partir du... Ça a commencé même dans l'éternité, mais notre connaissance du salut, lui, se fait dans le temps et dans l'espace, et il nous rend jusqu'au bout. Donc ça, c'est la part de Dieu. Ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'est la part de Dieu. Donc Dieu préserve les élus dans le salut. On va juste regarder cette semaine la deuxième partie. Alors, c'est deux doctrines qui vont ensemble. Deux doctrines qui sont vraiment jumelles. On ne peut pas séparer la préservation de la persévérance. Autrement dit, la préservation, c'est la part de Dieu dans le salut, et la persévérance, c'est la part de l'homme, la part de l'être régénéré. Dieu nous régénère, mais il nous dit qu'il va nous emmener d'un point à l'autre, mais entre-temps, il nous demande de faire des choses qui sont révélées un petit peu partout à travers les Écritures, ce qu'on appelle la persévérance des saints, la doctrine des persévérances des saints. C'est cette partie-là qu'on va regarder cette semaine. Alors, cette persévérance-là, dans les Écritures, elle est indiquée comme étant quelque chose de nécessaire. Alors, dans Jean 8, par exemple, au verset 31-32, le Seigneur lui-même dit, « Et Jésus disait aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous persistez en ma parole, vous serez vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Alors, c'est vraiment l'idée « si vous persistez ». Alors, quelque part, quelqu'un ne peut pas dire « Ah, j'ai reçu la grâce de Dieu et en attendant, je peux vivre n'importe comment et continuer ta vie de péché et croire que ça va t'emmener. » Alors, Dieu, oui, fait sa part, mais il faut que tu fasses la tienne aussi. Donc, ici, il nous le dit, il faut persister dans sa parole. Dans Jean 15 aussi, on a encore à peu près la même idée, dans versets 9 et 10. Il dit « Comme le Père m'a aimé », alors c'est Jésus qui parle, il dit « Comme le Père m'a aimé, ainsi je vous ai aimé, demeurez en mon amour. » Et dans le verset 10, il dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure en son amour. » Voyez-vous, s'il y a quelque chose de particulier aux deux versets qu'on vient de regarder, tu as le mot « si ». C'est une condition. Alors, c'est conditionnel. Il faut quelque part faire notre part aussi en obéissant aux différentes directives que le Seigneur nous donne pour demeurer dans le chemin étroit et resserré. Acte 11, verset 23. « Lequel, y étant arrivé et ayant vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhortait tous de demeurer attachés au Seigneur de tout leur cœur. » Alors ici, c'est Paul qui parle à un groupe et il les exhorte. Les exhorte, les encourage, les avertit de demeurer attachés au Seigneur de tout leur cœur. Alors, bien sûr, ça s'adresse aussi à nous. Acte 14, verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples et les exhortant à persévérer en la foi et leur faisant sentir que c'est par plusieurs afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alors ça, c'est quelque chose les Écritures nous avertissent très clairement, que quand on devient chrétien, on va être affligé, on va être persécuté, on va être haï, on va être rejeté, et il ne faut pas s'attendre à ce qu'on va vivre une vie de chrétien et qu'on va se faire taper dans le dos de félicitations. Dès qu'on parle du Seigneur, dès qu'on se comporte en obéissant à ce que le Seigneur nous demande dans les Écritures, bien sûr, ça peut nous amener à être haïs des personnes. Dès qu'on ouvre la bouche et qu'on avertit quelqu'un qui pêche devant nous, sais-tu que tu pêches en faisant telle chose? Essayez-le, vous allez voir. Vous allez voir que c'est vrai. Le Seigneur nous dit que... Dans Romains, chapitre 11, versets 19 à 22. Alors, c'est le Romains 11, c'est le passage où on parle... On parle de l'arbre, et on parle que l'arbre serait Israël, mais qu'Israël était coupé, mais que les branches, qui ne sont pas des branches naturelles, les nations ont été hantées ou collées dessus. À quelque part, ça nous dit, « Mais tu diras, les branches ont été retranchées afin que j'y fusse hanté. » Hanté, ça veut dire collé dessus. « C'est bien dit, elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité. » Et tu es debout par la foi. Ne t'élève donc point par orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a point épargné les branches naturelles, prends garde qu'il ne t'épargne point aussi. Verset 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. La sévérité sur ceux qui sont tombés et la bonté envers toi. Si tu persévères en sa bonté, car autrement, tu seras aussi coupé. Alors, quelque part, on n'a aucune difficulté à parler de la bonté de Dieu. Tout le monde s'entend là-dessus. Mais dès qu'on commence à parler de la sévérité de Dieu, où là, des fois, on comprend mal. Pourtant, le peuple d'Israël, à l'époque, avait été incrédule lors de la première venue du Seigneur. Et il les a coupés. Bien sûr, depuis ce temps-là, il y a encore quelques Juifs qui ont cru, mais ce n'est pas la nation comme telle dans son ensemble. Et il dit il a pris les branches qui ne sont pas naturelles, donc les branches et les nations qui n'étaient pas des branches naturelles, il les a hantées dessus. Et il dit, fais attention toi aussi, si j'ai coupé Israël, si tu te comportes comme Israël, tu vas être coupé toi aussi. Alors quelque part, il faut tenir compte des avertissements que le Seigneur nous donne. Matthieu 10, verset 22. Et ici, comme je vous disais tantôt, « Et vous serez haïs de tous. » C'est-tu le fun d'être haï? Il n'y a personne qui aime ça être haï. Et il nous dit que si on croit en Jésus, si on met en pratique ce qu'il nous commande de faire, ses commandements, on va être haï. Plus vous allez parler du Seigneur, plus vous allez mettre en pratique sa parole, plus vous risquez d'être haï. Et c'est inévitable, ça va ensemble. Il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais quiconque persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, on a l'idée de la persévérance. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 et 2. Or, mes frères, je vous fais savoir l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu et auquel vous vous tenez ferme et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez, en quelle manière je vous l'ai annoncé, à moins que vous n'ayez cru en vain. Voyez-vous le nombre de fois, si Dieu nous dit des commandements de persévérer dans sa parole et d'être fidèle à ce qu'il nous demande. Colossiens, chapitre 1, versets 21-23. « Et vous, qui étiez autrefois éloignés de lui, et qui étiez ses ennemis, en votre entendement et en mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par le corps de sa chair en sa mort pour vous rendre saint, sans tache et irrépréhensible devant lui. Si, verset 23, si toutefois vous demeurez en la foi, étant fondé et ferme et n'étant point transporté hors de l'espérance de l'évangile que vous avez ouï, lequel est prêché à toute créature qui est sous le ciel, et duquel, moi, Paul, j'ai été fait le ministre. » Les Écritures en sont remplies. Pourquoi je vous donne tant de versets? C'est parce que si on présente juste la doctrine de la préservation, il y a un danger qu'on n'a pas rien à faire dans le salut. Les Écritures nous avertissent qu'on a quelque chose à faire. Et il y a des multiples versets, je suis loin de vous les donner toutes, mais je vais quand même en donner un bon nombre, de manière à ce qu'on voit que c'est vraiment les Écritures qui nous demandent ça. Dans Hébreux 10, versets 23-26. « Retenons la profession de notre espérance sans varier, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle. Et prenant en garde l'un à l'autre afin de nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres, ne quittant point notre assemblée, comme quelques-uns ont accoutumé de faire, mais nous exhortant l'un l'autre, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Il y a une idée très importante qui est mentionnée dans le texte ici, dans le verset 25. Ne quittez point votre assemblée. N'abandonnez pas votre assemblée, dépendamment des versions, là, mais ça veut dire exactement la même chose. Et ça nous dit pourquoi. Puis ça dit que comme quelques-uns ont accoutumé de faire, certaines personnes ont pris l'habitude de ne pas assister à leur culte. Mais ça dit, mais nous exhortant l'un l'autre, donc nous encourageant, nous avertissant l'un l'autre. Et la raison nous est donnée dans la deuxième partie du verset 25, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Autrement dit, plus on va approcher vers le retour du Seigneur, plus notre besoin de s'assembler fidèlement les uns avec les autres et de nous exhorter les uns les autres à être fidèles va être important. Oui, ça, c'est des choses que les Écritures nous avertissent, mais parfois, on est porté à être un peu léger face aux avertissements que le Seigneur nous donne. Hébreux 12, versets 14 et 15. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, la sanctification, on a fait une série de, je pense, 14 ou 15 leçons sur cela. Alors, c'était important que le chrétien s'attelle à se sanctifier et demande l'aide du Saint-Esprit, bien entendu, parce que Dieu va te sanctifier, mais il faut que tu aies ta part aussi à faire à l'intérieur de tout ça. Il dit dans le verset 15, « Prenez en garde qu'aucun ne se prive de la grâce de Dieu, que quelques racines d'amertume bourgeonnant en haut ne vous troublent et que plusieurs ne soient souillés par elles. » Alors, Apocalypse, verset 2, verset 7 et 11. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Église dit, ce que l'Esprit dit aux Églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. Verset 11, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Celui qui vaincra sera mis à couvert de la mort seconde. Alors, non seulement la persévérance est requise dans les Écritures, mais elle est aussi assurée. Tous les véritables chrétiens régénérés par le Saint-Esprit, nés de nouveau, vont persévérer. Alors, 1 Jean, chapitre 5, verset 4, « Parce que tout ce qui est né de Dieu surmonte le monde, et ce qui nous fait remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. » Alors, bien entendu, le monde, on sait qu'il y a trois forces qui travaillent simultanément, conjointement, ensemble. D'abord, il y a notre propre nature, notre vieille nature qui est encore en nous, qui, elle, cherche toujours à nous ramener dans nos vieilles habitudes de péché. Il y a, bien entendu, Satan et sa horde de démons. Et il y a aussi le monde, toutes les valeurs du monde qui nous entoure, qui cherchent à nous ramener. Alors, c'est ces trois forces qui sont beaucoup plus puissantes qu'on le croit. Mais le verset 1 Jean 5, 4 nous dit que tout ce qui est né de Dieu surmonte le monde. Donc, par la foi, on est capable de surmonter toutes ces difficultés-là. Même les trois qui conjuguent leurs efforts ensemble, on est plus fort avec notre foi que cela. 1 Jean chapitre 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne vit point dans le péché, car la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ce n'est pas un verset qui nous enseigne que pour le chrétien, on n'est pas capable de pécher. C'est un verset qui nous dit que dans la marche, dans notre marche chrétienne, dans l'ensemble de notre marche chrétienne, de notre vie chrétienne, on ne peut pas à la fois dire qu'on est chrétien et continuer à vivre dans le péché. On a une victoire. Et bien entendu, cette persévérance-là est accomplie. Les élus de Dieu vont persévérer parce que Dieu, comme on a vu la semaine dernière, Dieu les préserve. Jonas, chapitre 2, verset 10. « Mais moi, je te sacrifierai avec voix de louange. je rendrai ce que j'ai voué, car le salut est de l'Éternel. Bien important de saisir l'idée que le salut, c'est une œuvre divine. Plus on va le saisir, plus on va réaliser sa force. Mais comme je vous ai dit, comme c'est deux doctrines jumelles, on ne peut pas juste dire « Ah, OK, Dieu m'a sauvé, maintenant, peut me laisser aller. » Ou bien au contraire, il faut tenir compte de tous les avertissements que le Seigneur nous dit pour persévérer. Alors, Dieu préserve les élus de plusieurs façons. Il le fait par son Saint-Esprit, dans Galates, au chapitre 4, verset 6, et parce que vous êtes des enfants. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos cœurs, criant « Abba », c'est-à-dire « Père ». Éphésiens, chapitre 1, verset 13 et 14, qui est des versets très rassurants. Ça nous dit « En qui vous êtes aussi, ayant ouï la parole de la vérité, qui est l'évangile de notre salut, et auquel, ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. » Quand on est scellé par Dieu lui-même, ça veut dire qu'il n'y a rien à faire par le Saint-Esprit de la promesse, lequel est l'art de notre héritage jusqu'à la rédemption de la possession qu'il a acquise à la louange de sa gloire. L'art, c'est un avant-paiement. A-R-R-H-E, souvent on peut passer, on lit le verset, puis on ne prend pas la peine d'aller vérifier ce que ça veut dire. Mais autrement dit, c'est comme Dieu nous a donné son Saint-Esprit, il l'a fait habiter en nous. C'est comme un avant-paiement. C'est comme une garantie que ce qu'il nous promet, le salut, qu'on se rende jusqu'au bout. Alors, un art, c'est ça. C'est important de réaliser qu'il va permettre qu'on va se rendre jusqu'au bout. Et Philippiens 1, verset 6. « Étant assuré de cela même, que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'achèvera jusqu'à la journée de Jésus-Christ. » Il ne peut pas être plus rassurant que ça, là. Seigneur, il nous dit « Qu'est-ce que je commence? Je le termine. » Mais il ne faut pas penser non plus qu'à cause qu'il a dit ça, « OK, olé, on peut faire ce qu'on veut. » Ça ne marche pas comme ça. Alors, dans Philippiens, chapitre 2, verset 13, aussi, ça nous dit « Car c'est Dieu qui produit en vous, avec efficacité, le vouloir et le faire et l'exécution selon son bon plaisir. » Alors, c'est Dieu qui nous donne l'efficacité, le vouloir et le faire. Alors, on est en train de faire une série le mercredi soir sur la crainte de Dieu. C'est une série, moi ça m'a fait beaucoup de bien de la préparer, de la donner. Et il y a beaucoup de choses qu'on a appris au cours de ces 14 leçons-là sur la crainte de Dieu. Donc, en résumé, c'est la parole nous dit que lorsqu'on est né de nouveau, on a une crainte de Dieu qui est fondamentale en nous. Sinon, on retournerait dans notre vie de péché. Cependant, lorsque les Écritures nous enseignent, c'est que Dieu promet une multitude de bénédictions. On a fait une série, il y a 42 bénédictions que le Seigneur donne à ceux qui le craignent. Mais la chose, c'est qu'il y a une croissance, une possibilité de croissance dans la crainte de Dieu. Je ne vous demanderai pas de lever la main, mais combien d'entre nous prient quotidiennement le Seigneur d'augmenter la crainte qu'on a de sa personne dans nos vies quotidiennes? On se devrait de le faire. Considérant les 42, là, ceux qui l'ont, les notes, vous les reviserez. Puis ceux qui ne les ont pas, bien, vous pourrez les télécharger sur le site web. 42 promesses que le Seigneur fait à ceux qui craignent. Et, bien entendu, plus ta crainte de Dieu va être importante, plus tu vas recevoir et bénéficier les innombrables promesses et riches promesses que le Seigneur va faire. Alors, est-ce que vous prenez dans votre tête la résolution? Je vous entends penser, là. Je pense que vous êtes tout en train de dire ça. Qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez demander à Dieu, à tous les jours, chaque fois que vous ouvrez vos Écritures et que vous priez, de demander à Dieu, « Seigneur, j'ai une crainte de toi parce que je suis né de nouveau et je t'appartiens. Cependant, la crainte que j'ai de toi n'est très certainement pas au bout de ce qu'elle pourrait être. Elle pourrait être Et on a donné les raisons pour lesquelles la crainte de Dieu, Dieu va utiliser. Il parle de nous comme des vases. Il dit certains sont des vases à honneur, il les utilise pour sa gloire, d'autres sont des vases à déshonneur. Alors, si on veut être un vase à l'honneur, il faut être rempli de crainte de Dieu. Et plus on va craindre Dieu, plus notre service chrétien va être agréable à ses yeux, et plus il va être efficace aussi. En tout cas, c'est sûr que je ne réviserai pas les... Mais je vous dis, si vous commencez dès demain à faire cela, puis que vous demandez à Dieu, puis Dieu sait dans le fond de votre cœur que vous le demandez, et que vous avez vraiment le goût de le faire. Dieu connaît la ferveur de nos cœurs et il connaît l'authenticité de nos demandes. Si on le demande puis qu'on l'a vraiment à cœur, Dieu va le faire. Il va l'augmenter et ça va avoir un impact sur votre vie chrétienne, sur votre marche chrétienne et sur bien des choses dans votre vie en général. Parce que les 42 bénédictions, si après les avoir lues, vous ne les voulez pas, je me pose des questions. Parce que si on ne veut pas ça, là, quelque part, là, c'est... Il promet des choses extraordinaires. Donc, Dieu préserve les élus par son esprit. Mais il utilise aussi un autre moyen. Et c'est celui de sa parole. La parole de Dieu. Cette semaine, à partir de la semaine prochaine, on va retomber dans notre série sur la Genèse. On est rendu au chapitre 15. Et j'ai commencé à faire des lectures dans différentes choses concernant les 6 premiers versets de Genèse 15. Et je suis littéralement renversé de voir la richesse qu'il y a dans seulement 6 versets. La parole est d'une richesse et elle nous enseigne tellement de choses, mais on a la tendance à négliger la parole de nos jours. On ne passe pas assez de temps dans la parole et on ne fait pas avec la parole ce que la parole nous demande de faire avec. La lire, l'écouter, l'étudier, ce que très peu de personnes font, la mémoriser et la méditer. Toutes ces choses-là s'apprennent. Si on se rend compte que dans nos vies, la parole nous donne 5 devoirs face à la Bible et qu'on ne les fait pas, selon vous, y a-t-il quelque chose qui ne marche pas dans nos vies? Oui. Parce qu'il nous demande, et bien souvent, lorsqu'il nous dit dans les Écritures, souvent vous regarderez le temps des verbes. Quand vous voyez un verbe qui finit par « ez », c'est un verbe à l'impératif. Un verbe à l'impératif, c'est un commandement. Moi, j'ai fait de l'armée. Puis, quand le commandant ou un lieutenant me disait « fais ci, fais ça », oui, monsieur, je saluais le monsieur, puis je faisais ce qu'il me disait. Un commandement, ça implique que tu exécutes ce que Dieu te demande. Et si les Écritures nous disent que face à la Bible, on a 5 devoirs, lisez-les, étudiez-les, mémorisez-les. Ça aussi, ça se perd de nos jours. Méditez-les, étudiez-les. Si on ne vous demanderait pas de lever la main non plus, là, parce que des fois, ça peut être gênant. Mais est-ce qu'on fait ça dans nos vies de tous les jours? Parce que c'est par cela que le Seigneur se sert de son Saint-Esprit, mais il se sert aussi des saintes Écritures pour nous faire comprendre des choses et pour transformer des choses dans nos vies. On a plein de choses à transformer. Je ne sais pas si vous les voyez, mais moi, des fois, il me semble que je les vois quasiment trop. Pas de farce, il y a des journées que tu te regardes, tu te dis, « Mon Dieu, fais donc bien pitié. » Mais c'est par la parole qu'on peut, transformer les choses, c'est par la parole qu'on peut changer les choses. Moi, Matthieu 7, là, les premières fois que j'ai lu ça, ça fait bien des années, là, c'est un passage qui me terrorisait presque. Parce que si vous le lisez attentivement et vous écoutez ce que le Seigneur est en train de vous dire, il dit, « Tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? Mais je leur dirai alors tout ouvertement, Je ne vous ai jamais reconnu. Retirez-vous de moi, vous qui vous adonnez à l'iniquité. » Alors, ce que c'est en train d'enseigner, c'est qu'il y a des gens qui vont prétendre connaître Jésus et ils vont utiliser son nom. « Seigneur, Seigneur! » Puis là, qu'ils vont dire, qu'ils ont prophétisé en son nom. Donc, ils ont fait des choses, qui ont prophétisé. D'autres qui ont chassé des démons en son nom. Puis d'autres qui ont fait des miracles en son nom. Puis quand Jésus va les juger, il va dire, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. » Alors, c'est vraiment un passage qui vient nous dire qu'on ne peut pas vivre n'importe comment quand on appartient au Seigneur. Sinon, quelque part, on se met à nous-mêmes et on est dans l'illusion. Romains 6, versets 12 et 13. « Que le péché ne règne donc point en votre corps mortel pour lui obéir en ses convoitises. Et n'appliquez point vos membres pour être des instruments d'iniquité au péché. Mais appliquez-vous à Dieu comme de mort étant fait vivant, et appliquez vos membres pour être des instruments de justice à Dieu. » Romains 8, versets 13 et 14, j'ai déjà fait une série à Rouyn-Noranda là-dessus, juste sur ce verset-là, qui est une série sur la mortification du péché. C'est des versets qui enseignent qu'on se doit de mortifier le péché, mais pas par nous-mêmes, le faire avec l'aide du Saint-Esprit. Ça dit que si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous mortifiez les actions du corps, bien entendu, ici, dans le contexte, les actions du corps, ça veut dire votre vieille nature, vous vivrez. Or, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 5. On sait qu'un Corinthien, c'est le passage où il y a quelqu'un qui couchait avec sa belle-mère, là, Paul, il dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Galates, chapitre 5, verset 16, et verset 24 et 25. « Je vous dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez point les convoitises de la chair. Or, ceux qui sont de Christ ont crucifié la chair avec ses affections et ses convoitises. Si nous vivons par l'Esprit, conduisons-nous aussi par l'Esprit. » Philippiens, chapitre 2, verset 12. J'aime beaucoup ce verset-là parce que ça nous rappelle quelque chose d'important. « C'est pourquoi, mes bien-aimés, ainsi que vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant en mon absence, employez-vous à votre propre salut avec crainte et tremblement. » On s'arrête-tu à penser qu'est-ce que ça veut dire, ça? De travailler à notre salut avec crainte, tremblement, là, c'est... Si tu as un accident sur la route, là, tu t'en vas à 100 km à l'heure, puis tu frappes quelque chose, là, quand tu sors de ton char, là, tu trembles, parce que ça m'est arrivé, puis je sais que c'est vrai. On sort, on tremble littéralement, là. On a peur. Mais ici, ça nous dit de travailler notre salut avec crainte et tremblement. Parce que quelque part, s'il y a une place qu'on ne peut pas se tromper, c'est sur notre salut. On peut se tromper dans des doctrines, dans certaines doctrines peut être mal comprises, mais il y a une chose qu'on ne peut pas se tromper, ou qu'on ne doit pas se tromper. C'est vraiment le fait où tu vas passer ta destinée éternelle. Parce que si tu fais juste dire « Seigneur, Seigneur », puis qu'il n'y a pas d'obéissance dans ta vie, c'est un chemin très dangereux que tu suis là. Alors, il faut que tu changes. Titre 2, versets 12 et 14, « Nous instruisant, afin que, renonçant à l'impiété et au désir mondain, nous vécussions dans le précédent siècle sagement, justement et pieusement, attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » C'est ça qu'on attend actuellement. On attend l'apparition de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ lors de sa deuxième venue. Plus je regarde ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle, là, Il y a la grande unité des religions qui est en train de se faire et on est en train de dire « établissons la paix sur la terre ». Il y a eu une grande réunion récemment, là, toutes les religions de la terre. Et il y a une autre ville, là, quelque part, où sont en train de faire un genre de... où ils disent que ce que la Bible dit. L'unité des religions, à n'importe quel prix, disons qu'on va avoir une seule religion mondiale et on s'en va vers l'unité du le grand gouvernement mondial. Mais l'unité des religions, ça ne peut pas se faire à n'importe quel prix. On ne peut pas dire qu'un chrétien, un musulman, un bouddhiste et toutes les autres religions du monde, ça mène au Seigneur. Parce que les Écritures sont d'une clarté limpide. Acte 4:12, qu'on a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Alors, quand vous voyez ces grandes religions-là en train de se réunir au point de vue mondial et que leur mot d'ordre est « établissons la paix par l'unité des religions », la Bible nous dit dans Thessaloniciens, « lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors c'est là que la chose va arriver ». Alors, faisons très attention parce que ça commence dans les hauteurs, ça, là. Ça a commencé, ça s'est fait à Séoul, en Corée. Et là, ça s'est fait à une autre ville qui s'appelle Astana. Et il y a comme des genres de gros congrès des religions mondiales où on dit que toutes les religions mènent à Dieu. Et on veut établir la paix au moyen des religions, de l'unité des religions mondiales. Ben, dites-vous une chose, ça part d'en haut, mais ça va descendre jusqu'ici. Ça part toujours d'en haut, puis après ça, ça descend régional, pays par pays. Et ça va finir par, ils vont essayer de nous emmener dans leurs affaires. Alors, si on n'est pas réveillé et faire attention que toutes les religions ne mènent pas à Dieu, moi, je le nie de façon catégorique parce que je crois à ce que la Bible dit, Acte 4:12, il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Et si ta religion ne parle pas de Jésus-Christ, bien, elle ne te mènera pas à la vie éternelle. Alors, si on ne fait pas attention à ce qui se passe autour de nous, ça va finir par nous affecter, bien entendu. Jacques 2, verset 20. Mais, ô homme vain. Ici, Jacques, là, c'est un. Il parle à d'autres chrétiens. Il dit : mais, ô homme vain, veux-tu savoir que la foi qui est sans les œuvres est morte? Donc, ça nous dit que c'est possible qu'on dise qu'on croit en Dieu, mais qu'une foi qui ne porte pas de fruits, une foi, la Bible appelle ça une foi morte, et une foi morte, ça ne te mènera pas au paradis, ça ne te mènera pas à la vie éternelle. Faisons attention pour qu'on produise des fruits, parce que la Bible nous dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui s'est prétendu chrétien toute sa vie. J'avais déjà raconté l'histoire d'un pasteur américain qui était... missionnaire, est allé dans le sud, d'aller dans un pays du sud et emmener sa femme avec lui. Et il était bien sûr que sa femme était sauvée. Ça faisait 25 ans que tout le monde dans l'église lui disait qu'elle était sauvée parce qu'elle était mariée avec un missionnaire. À un moment donné, elle se retrouve dans une église un dimanche, elle entend le message du salut, puis elle va voir son mari après, puis elle dit « Je n'étais pas sauvée avant, je n'avais rien compris. » Mais si elle était morte, dans cet état-là, là, tout le monde qui la connaissait aurait dit, ben oui, c'est une chrétienne. Mais à quelque part, il faut vraiment vérifier. Les Écritures nous le disent en 2 Corinthiens, je pense, chapitre 13. Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Pas la foi que vous croyez, mais la foi biblique. Alors, c'est notre devoir de s'examiner nous-mêmes pour savoir si on est dans la foi. Alors, le ministère, autre chose. Ça dit dans 1 Jean 4:15, « Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Donc, le troisième moyen que le Seigneur utilise pour nous garder, pour nous faire persévérer, c'est le ministère d'intercession de Christ. Ça, c'est une affaire qu'on oublie souvent. Le Seigneur, quand il est monté au ciel, dans l'éternité, il nous a placés en lui. Quand il est venu sur la terre, on était en lui, on a subi le châtiment en lui. Et quand Dieu a ressuscité Jésus-Christ, on a ressuscité en lui. On est déjà en lui. Dans le ciel, on est déjà ancré en lui. dans le ciel. Alors, les Écritures nous disent que le Seigneur Jésus est en train de faire quelque chose actuellement. Depuis qu'il est remonté. Et c'est quoi son ministère? L'intercession. Il prie pour nous. Voyez-vous, dans Jean 17, ça dit « Et maintenant, je ne suis plus au monde, mais ceux-ci sont au monde, et moi, je vais à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom. Ceux-ci, dis-je, que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous tous. » Et Hébreux 7, 25, il dit « C'est pourquoi, aussi, il peut sauver pour toujours ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder pour eux. » Ça veut dire que depuis le moment que vous êtes sauvés, Jésus lui-même intercède auprès du Père pour vous. Il nomme votre nom, là. Il nomme votre nom. Pour nous aider à persévérer. Il voit nos problèmes, il voit nos difficultés. Et bien entendu, la part du Saint-Esprit dans tout cela est grande, mais notre responsabilité aussi est grande pour demeurer dans le chemin étroit et resserré. Donc, on va aussi sur le ministère, c'est le troisième moyen. Quatrième, c'est vraiment l'œuvre, la base de l'œuvre, sur la base de l'œuvre de Christ. Donc, Romains, chapitre 4, versets 7 et 8. « Bienheureux ceux à qui les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Bienheureux est l'homme à qui le Seigneur n'aura point imputé son péché. » S'il ne l'impute pas à nous, à qui l'a-t-il imputé? Imputé, on se souvient-tu qu'est-ce que ça veut dire? Mis sur votre compte. Dieu prend vos péchés, les péchés de tous les élus, il les place sur la personne de Christ. Et le châtiment, la punition qui aurait dû être la vôtre, il l'a fait subir à Jésus-Christ à votre place. Donc ça, c'est une partie. La deuxième partie, c'est que Dieu exigeait que chacun d'entre nous ait accompli à la loi, la loi, le décalogue, les 10 commandements, à la perfection dans toute votre vie, tous les jours de votre vie. Donc il n'y a personne qui a fait ça. Donc l'imputation, c'est que Dieu prend notre pire, puis il le met sur Jésus-Christ, puis Dieu le Père juge nos péchés sur la personne de Christ, alors que lui est innocent parfaitement. Et Christ, quand il a été sur la terre, lui, il n'a pas fait aucun péché, il a toujours agi de façon parfaite, d'obéissance à son Père. Et il nous dit que la justice que Christ a faite dans son comportement sur la terre, il nous la met sur notre compte. C'est comme Dieu nous voit comme si on avait fait ça toute notre vie. À quelque part, là, c'est tellement glorieux, le message du salut. Voyez-vous, dans Romains 8, 33-34, « Qui intentera accusation contre les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. » Autrement dit, c'est Dieu le grand juge, quand il fait tomber sa masque et il dit « Mettez votre nom, là, est juste. » Ce n'est pas sur la base que vous êtes juste en soi. C'est sur la base que vos péchés ont été jugés en Jésus-Christ et sur la base que ce qu'il exigeait de chacun de vous a été accompli par Jésus-Christ à votre place encore. La substitution. Jésus-Christ s'est substitué à vous pour la punition et il s'est substitué à vous pour l'accomplissement de la volonté divine à votre égard. Et vous, ça dit, qui sera celui qui condamnera? Christ est celui qui est mort et qui plus est, qui est ressuscité, qui est aussi à la droite de Dieu et qui même prie pour nous. Deux fois intercession. C'est très important, c'est très rassurant de savoir que Christ est au ciel et il intercède pour chacun d'entre nous. Il nous connaît à la perfection, mieux que nous-mêmes. Galates, chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi quand il a été fait malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Donc, le Seigneur aussi, un autre moyen qu'il utilise, c'est la discipline. Celui-là, on l'aime moins. Parce que le verbe que le Seigneur utilise, c'est un verbe fort. Voyez-vous, dans Hébreux 12, verset 6, « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. » Est-ce qu'il nous aime? Si on fait des bêtises trop graves, là, est-ce qu'il va nous laisser aller là-dedans? il dit qu'il va nous châtier. Donc, c'est un moyen qu'il utilise pour qu'on reste dans le droit chemin. Et la version que j'utilise, moi, utilise le verbe « et il fouette tout enfant qu'il avoue ». Ou bien non, d'autres versions, je me souviens plus qu'est-ce qu'ils ont dit. « Et il... » je me souviens plus du verbe.
« Il... »
Oui, mais le deuxième mot... En tout cas, l'idée, c'est que le traducteur a choisi le mot « fouetter ». Donc, le Seigneur, il dit « châtie celui qu'il aime » et « il fouette tout enfant qu'il avoue ». Bien sûr, c'est pas qu'un fouet physique, mais je ne sais pas, ça fait combien de temps que vous êtes sauvé, il faudrait vous le demander à chacun en particulier. Là. Moi, depuis 1979, ça va faire 40 ans bientôt. Je peux vous dire une chose... Le Seigneur, il l'a utilisé, le fouet, dans ma vie. Puis je suis sûr qu'il l'a utilisé dans la vôtre aussi, ça fait bien des années que vous êtes chrétien. Quand on fait trop des grosses bêtises, le Seigneur, il frappe, puis il frappe pas parce qu'il veut nous faire mal, il frappe pour nous apprendre un peu comme quand on apprend à un enfant qu'il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Il y a des fois, il faut utiliser les grands moyens. Et c'est ça qui fait l'éducation d'un enfant. L'enfant finit par s'en rappeler. Et je vais terminer avec le Romains 8, 29 et 30. Ça, c'est un des beaux passages de The Golden Chain of Salvation, ou la chaîne d'or du salut. Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qui l'ont justifié, il les a aussi glorifiés. S'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, c'est que les verbes sont au passé. Ça veut dire que vous êtes justifié, mais que vous êtes déjà glorifié. Sais-tu, quand on se met à penser à ça, là, on est déjà glorifié, que la parole nous dit. Parce que quand Christ a été ressuscité, on était en lui. Et quand il a monté, on a monté avec lui. Donc, à quelque part, on est déjà glorifié. Il nous reste juste à perdre notre vie physique, puis ça va être la glorification vraiment totale et globale. Mais en attendant, on peut dire qu'on est glorifié, parce que c'est ça que la Bible dit dans Romains 8, verset 30. Ceux qui l'ont justifié, il les a aussi glorifiés. Alors, deux applications. Louons le Seigneur pour le fait scripturaire, qu'il nous préservera jusqu'à la complétion finale du salut, c'est-à-dire que nous soyons rendus au ciel et glorifiés. Deuxième application, implorons Dieu de nous faire comprendre correctement notre participation dans le salut, l'obéissance, la sanctification, les bonnes œuvres. Si vous avez du temps cette semaine, puis vous voulez vous rafraîchir dans toutes les notions qu'on vient de voir là, allez dans votre confession de foi, Baptiste de Londres, 1689. En passant, s'il y en a qui n'en ont pas de copie, là, j'en ai une caisse en haut qu'on a reçue récemment. Alors, s'il y en a qui en veulent, vous me le direz, je peux vous en donner une copie, vous me le direz tantôt. On ira chercher des copies pour ceux qui en veulent. Mais je vous conseillerais, si vous avez le temps, si vous avez le goût, de lire les chapitres 14, qui s'appelle « La foi qui sauve », le chapitre 15, qui s'appelle « La repentance pour la vie et le salut », le chapitre 16, qui s'appelle « Les bonnes œuvres », le chapitre 17, qui s'appelle « La persévérance des saints », et le chapitre 18, qui s'appelle « L'assurance de la grâce et du salut ». Ce n'est pas très long, mais si vous prenez le temps d'y lire et d'y méditer, puis surtout si vous prenez le temps d'aller voir les versets avec chacune des idées qui sont avancées, vous allez voir que c'est des choses qui sont basées sur les Écritures. C'est vraiment fortement basé sur les Écritures. C'est bon de réviser c'est quoi notre salut, parce que des fois, on pense qu'on le sait, mais on ne le sait pas tant que ça. Quand on regarde comme il faut là, les documents qui ont décrit ça plus en détail, on se rend compte que des fois, on aurait intérêt à connaître notre salut encore mieux. Alors, on va arrêter là-dessus pour aujourd'hui.